Alors nous arrivons bientôt à la fin de la première lettre de Pierre que nous étudions à raison d'à peu près une fois par mois depuis environ un an. Et ce matin, nous en sommes à l'avant-dernier épisode de la série, début du chapitre 5. Et après avoir passé beaucoup de temps à évoquer la réalité des épreuves dans la vie chrétienne, c'est un des thèmes majeurs de sa lettre, Pierre conclut à la fin du chapitre 4, verset 19, que c'est dans la confiance en Dieu que le chrétien peut surmonter l'épreuve et connaître même par elle la grâce d'une intimité renforcée avec Dieu. Et Pierre va poursuivre son propos, ayant dit cela, en plaçant l'humilité au cœur de cette confiance en Dieu. Et ce faisant, il va évoquer trois sphères de la vie chrétienne. La sphère, on pourrait dire, des responsables d'église d'abord, puis celle de l'église en général, et enfin celle des croyants individuels dans leur vie avec Dieu. Et je vais donc d'abord lire le texte, 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 7. Et si vous n'avez pas votre propre Bible, vous avez ces Bibles bleues, et c'est à la page 1190. Page 1190. 1 Pierre 5, 1 à 7. « J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, un témoin des souffrances du Christ, ayant part à la gloire qui va être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. Veillez sur lui, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour des gains honteux, mais avec ardeur, non pas en dominant comme des seigneurs sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. Et lorsque le maître berger se manifestera, vous obtiendrez la couronne inaltérable de la gloire. » De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Alors, je l'ai dit, on va étudier ce texte en trois temps, hein, c'est classique. Nous allons placer au cœur de notre réflexion, comme le fait l'apôtre Pierre, l'humilité. Qualité essentielle qu'il met en valeur dans ce texte. Et je précise que je développerai un peu plus longuement le premier point. Premièrement, l'humilité moteur du ministère des anciens. Deuxièmement, l'humilité moteur de la vie de l'Église. Et troisièmement, l'humilité moteur de l'assurance du croyant. D'abord, donc, l'humilité par rapport au ministère des anciens. Dans sa lettre, Pierre s'est déjà adressé à des catégories de personnes différentes dans certaines sections, les domestiques, les épouses, les époux. Ici, au début du chapitre 5, il s'adresse à ceux qu'il appelle les anciens. Et on va voir comment Pierre les exhorte dans l'exercice de leur ministère. Mais avant cela, il me semble utile de répondre à deux questions que ce texte peut susciter à propos de l'identité des anciens. Pour bien comprendre ce que Pierre dit aux anciens, il faut comprendre qui ils sont. Et j'ouvre donc une brève parenthèse à ce sujet. La première question, c'est la suivante. Est-ce que Pierre parle vraiment ici des responsables d'église? Est-ce qu'il ne parle pas des aînés en général? Après tout, il évoque les anciens au verset 1, mais au verset 5, il évoque les jeunes gens. On a l'impression qu'il établit un contraste. Ou alors, s'il parle bien des responsables d'église, est-ce qu'il sous-entend que ces responsables doivent être anciens en âge? Alors je reconnais que je me trouve dans une position un peu délicate pour traiter cette question devant vous, alors que je suis le plus jeune parmi les anciens de notre Église. De très peu, hein, de quelques mois. Mais je vous soumets ma compréhension des choses sur ce point, que j'espère conforme non pas simplement à ce que j'espère, à ce que j'aimerais, mais aux données bibliques. Il semble clair, lorsqu'on lit les versets 1 à 4, que ce qui intéresse Pierre, ce n'est pas tant la tranche d'âge de ceux qu'il appelle anciens, mais plutôt leur fonction. Parce qu'on voit ce qu'il dit, verset 2, ils sont appelés à faire paître le troupeau de Dieu. Ils sont appelés donc à un ministère pastoral. Rappelons que le mot pasteur, l'origine, signifie tout simplement berger. La plupart des commentateurs s'accordent donc pour dire que Pierre parle bien ici des pasteurs, au sens large du terme, des responsables d'église qui conduisent le troupeau de Dieu. Mais alors, pourquoi est-ce que Pierre établit un contraste apparemment avec les jeunes gens au début du chapitre, un peu plus loin dans ce chapitre? Il me semble qu'on doit reconnaître que Pierre établit effectivement un lien entre l'âge et la responsabilité. Lorsque Pierre pense aux responsables et qu'il les appelle anciens par opposition aux jeunes gens, il semble partir du principe que globalement, il s'agira de personnes d'un certain âge. Mais en même temps, on l'a dit, la fonction qu'il décrit au verset 1 à 4 n'est pas en elle-même liée à l'âge. Il s'agit de l'exercice d'une responsabilité. À mon sens, Pierre, écrivant ici dans les toutes premières décennies de l'histoire de l'Église, se trouve dans un contexte culturel où, de façon naturelle, ce sont certains aînés qui assument le ministère d'anciens. D'ailleurs, le mot « ancien » lui-même a été repris par les premiers chrétiens, avec pour arrière-plan la structure de la synagogue, où c'était la responsabilité sur la communauté revenait à certains aînés. Par conséquent, quand Pierre pense aux responsables d'Église, il pense en premier lieu à des aînés. Et puisque les responsables d'Église étaient généralement plutôt trouvés parmi les aînés, Pierre va assez naturellement ensuite établir un contraste avec les jeunes gens, ou les plus jeunes comme il dit. Mais il ne faudrait pas, me semble-t-il, d'après les données bibliques, absolutiser cela en principe rigide et absolu. On voit par ailleurs dans le Nouveau Testament que la pratique des églises sur ce point n'était pas rigide. L'apôtre Paul, notamment, a confié à des hommes relativement jeunes, Timothée et Tite, la responsabilité de nommer eux-mêmes des anciens à Éphèse et en Crète. On peut penser que s'ils nommaient des anciens, a fortiori, ils pouvaient eux-mêmes exercer un ministère d'anciens. Et d'ailleurs, Paul les appelle à exercer ce ministère. Il leur demande d'encourager les croyants, d'enseigner les croyants, parfois de reprendre ceux qui sont dans l'erreur, et même d'exercer la discipline dans certains cas. Paul ajoute d'ailleurs à l'attention de Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Chapitre 4, verset 12. Donc il me semble qu'il y a une certaine flexibilité dans la pratique qu'on voit dans le Nouveau Testament, mais disons une sorte de tendance générale, assez naturelle, selon laquelle les responsabilités des anciens étaient plutôt confiées à des personnes qui avaient un certain âge, dirons-nous. Et c'est aux églises de discerner, à la lumière des textes bibliques qui concernent les dons, les qualités requises pour les anciens, qui devraient exercer ce ministère. Voilà pour cette première question. Plus brièvement encore, la deuxième question qui peut-être se pose à nous lorsque nous lisons ce texte dans notre contexte. Est-ce qu'il faut faire une différence entre anciens et pasteurs? Grande question. Dans l'histoire de la rue de Sèvres, ça a parfois été une question, je crois savoir, qui s'est posée. Alors, est-ce que Pierre établit une différence entre les anciens et les pasteurs? Il me semble qu'il faut répondre non à cette question. Dans ce texte, Pierre parle des anciens, mais lorsqu'il décrit leur tâche, il affirme qu'ils ont la responsabilité de faire paître le troupeau de Dieu, donc d'être les pasteurs, les bergers de la communauté locale. Et d'un point de vue général, le Nouveau Testament ne semble pas faire de différence entre un pasteur et un ancien. Ce qui signifie d'ailleurs que lorsqu'on nomme un ancien, on doit se demander s'il a les qualités requises pour être un pasteur de l'Église. Ceci étant dit, il est possible et souvent souhaitable, sans doute, que dans le cadre d'un collège d'anciens, comme on dit, d'un groupe d'anciens, une Église reconnaisse à un ou plusieurs anciens un ministère spécifique, soutenu financièrement par l'Église, pour que cet ancien ou ces anciens puissent se consacrer à plein temps à l'étude approfondie et à l'enseignement de la parole notamment, au suivi régulier et fréquent des personnes et à la conduite des affaires de l'Église. Je crois qu'on voit d'ailleurs des indices déjà de cela dans le Nouveau Testament, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans cet argumentaire. Et dans ce cas, on peut, dans le langage courant, utiliser plutôt le terme « pasteur » dans un sens vocationnel plus spécifique, où on reconnaît une spécificité au ministère de ces anciens à plein temps, qui joueront sans doute un rôle particulier dans l'enseignement de l'Église, dans le suivi pastoral des personnes, comme je l'ai dit au quotidien, aussi dans les relations extérieures de l'Église. Mais ces anciens, ces pasteurs, à plein temps, dirons-nous, partagent pleinement avec les autres anciens la responsabilité de la conduite pastorale de l'Église. Et là, il n'y a pas, me semble-t-il, de différence à établir dans la responsabilité que l'Église leur confie. Il me semble que c'est ainsi que nous cherchons à vivre les choses à la rue de Sèvres. Donc je ferme cette parenthèse, j'en arrive au cœur de notre propos. D'après Pierre, l'humilité est une qualité centrale et essentielle du ministère pastoral dans l'Église. Pourquoi ? pour la bonne et simple raison que le responsable doit s'efforcer constamment d'attirer l'attention non pas sur lui-même, mais sur Jésus-Christ. Alors, à vrai dire, ce sont tous les chrétiens qui sont appelés à cela. Mais lorsque les anciens pasteurs se mettent en avant ou cherchent à s'imposer, ou pire encore, à faire prévaloir leur intérêt personnel aux dépens de celui de leur prochain, et surtout aux dépens de Dieu, eh bien les conséquences sont particulièrement désastreuses, étant donné leur responsabilité. Un ancien est avant tout un serviteur, ce qui ne veut pas dire qu'il est faible ou passif, mais au contraire qu'il s'engage pleinement et fermement pour le service de Dieu et de ses frères et sœurs. Et c'est intéressant de voir comment Pierre lui-même met en pratique ce qu'il dit, même dans la manière dont il écrit ces quelques lignes. Lui qui est apôtre de Jésus-Christ, qui a été l'un des premiers à connaître le Seigneur, à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon Église ». Il aurait pu tellement facilement se prévaloir d'un rôle privilégié auprès des anciens d'Asie mineure. Et il aurait pu être condescendant avec eux et dire « Allez-y mes braves gars, bossez bien, envoyez-moi un rapport à la fin de l'année sur comment les choses se passent dans votre église ». Mais à la place de cela, regardez comme il leur écrit en se solidarisant pleinement avec eux. « J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux », tout simplement. Il aurait pu insister sur son CV, mais il préfère encourager les anciens en se mettant à leur niveau. Il attire l'attention sur Jésus et sur ce qu'il a fait pour eux en se présentant comme témoin des souffrances du Christ, ayant part à la gloire qui va être révélée. Les anciens sont des serviteurs de Dieu et de l'Église qui ont pour rôle essentiel de ramener encore et toujours l'attention sur Jésus-Christ et sur son évangile. Pierre précise le rôle des anciens ensuite, verset 2, « Faites paître le troupeau de Dieu, conduisez le troupeau de Dieu qui est chez vous. » Et premier constat, ce n'est pas leur troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Alors que signifie faire paître le troupeau? C'est une image bien évidemment. Et si on pense justement à cette image du berger, il s'agit de conduire le troupeau là où il pourra se restaurer et le défendre contre ceux qui viennent le menacer. Un ancien exercera cette tâche avant tout en enseignant ses frères et sœurs, soit publiquement, soit en privé, en les rassemblant, en les aidant à s'attacher à la vérité, en les aidant à se garder des faux enseignements. Pierre poursuit toujours au verset 2, non par contrainte, mais volontairement. Ce verset est compris de façon légèrement diverse par les uns ou par les autres. Il me semble que ce que Pierre nous dit ici, c'est que si un ancien fait paître le troupeau, ce n'est pas en premier lieu parce qu'on lui demande de le faire, parce que c'est par contrainte, mais c'est parce qu'il désire lui-même le bien du troupeau. L'auteur de la lettre aux Hébreux va dans le même sens, en souhaitant que les responsables d'église exercent leur rôle non pas en soupirant, mais avec joie. Hébreux 13, 17. Et l'auteur aux Hébreux invite les membres de l'église à œuvrer dans ce sens. Pierre poursuit encore, les anciens doivent exercer leur ministère non pas pour des gains honteux, mais avec ardeur. Alors, ce n'est peut-être pas très probable dans notre contexte évangélique en France, mais il peut arriver. Et il peut arriver que quelqu'un cherche à faire reconnaître un ministère dans l'espoir d'en tirer un profit matériel ou pratique d'une façon ou d'une autre. Et ce genre d'attitude est évidemment totalement incompatible avec le ministère d'anciens, qui doit être motivé par une ardeur, verset 2. Pour le bien du peuple de Dieu et de tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Au verset 3, enfin, Pierre invite les anciens à ne pas se comporter en seigneur, mais plutôt en modèle pour le troupeau. L'ancien est appelé à simplement vivre ce qu'il appelle les autres à vivre, plutôt que d'essayer de leur imposer. Cela signifie qu'un ancien doit s'interdire de revendiquer son ministère comme un moyen d'exercer un pouvoir personnel. Lorsqu'un ancien exerce son ministère, et y compris d'ailleurs lorsqu'il est amené à prendre des décisions sensibles ou à exercer une discipline, c'est uniquement pour le Seigneur et non pour lui-même. Et bien sûr, en disant tout cela, je reconnais l'imperfection de tous les anciens, bien évidemment, et de loin devant cette tâche à laquelle nous sommes appelés. Tout ancien devrait trembler devant cette responsabilité qu'il accomplit si imparfaitement. Et d'ailleurs, l'exercice de son ministère ne peut que le conduire à une remise en question permanente. Est-ce qu'il vit conformément à la parole? Est-ce qu'il confesse régulièrement ses péchés à Dieu? Est-ce qu'il manifeste les fruits de l'Esprit? Voilà donc la feuille de route que Pierre confie aux anciens des églises d'Asie mineure. C'est intéressant de voir qu'il ne leur écrit pas une lettre en privé, il n'y a pas la lettre pour les anciens et puis pour le reste de l'Église, c'est une seule lettre. D'ailleurs, il ne s'adresse même pas à eux, à la deuxième personne, mais plutôt à la troisième personne. C'est comme s'il parle à l'Église en disant « Et en ce qui concerne vos anciens, voilà ce que j'ai à vous dire. » Ce qui, il me semble, souligne la solidarité qui doit exister entre la communauté et ses anciens. Les anciens ne sont pas des gens à part, mais des membres de la communauté comme les autres, qui ont accepté avec joie, je l'espère, et avec humilité, la responsabilité qui leur a été confiée. Vous savez, lorsqu'on va à un mariage, il y a souvent un cortège de voitures qui se suivent pour aller, par exemple, de l'église au lieu de la réception. Alors imaginez qu'on affrète 4 ou 5 minibus pour emmener les invités au lieu de la fête. Et pour ça, on désigne des conducteurs à qui on confie la responsabilité d'amener les invités sains et saufs au lieu de la fête. On leur confie cette tâche parce qu'on estime qu'ils savent bien conduire, qu'ils ont un bon sens de l'orientation, qu'ils ne font pas d'excès. Ces conducteurs sont des invités au mariage exactement comme les autres. Ils n'ont pas reçu un serpare spécial. C'est des invités, ni plus ni moins. Mais on leur confie une responsabilité importante de laquelle dépend le bien-être des invités, sous l'autorité, on peut dire, de l'organisateur ou des organisateurs du mariage. C'est une image, vous l'aurez compris, les anciens d'une église sont appelés à être des conducteurs. Ce sont des chrétiens comme les autres, à qui on confie cette tâche, parce qu'on a confiance qu'ils conduiront bien et qu'ils garderont le cap. Ils savent où ils vont, ils savent qu'il faut aller à tel endroit. Et une fois arrivés aux noces de l'agneau, tout le monde descendra de voiture. Tout le monde fera la fête ensemble. On ne se souciera sans doute plus particulièrement de savoir qui a conduit et qui n'a pas conduit. La couronne inaltérable de la gloire du verset 4 n'est pas, me semble-t-il, une récompense spécifique pour les anciens. C'est simplement un rappel aux anciens qu'ils recevront la récompense ultime de tout chrétien, le fait de vivre comblé pour l'éternité dans la présence de Dieu. Donc l'humilité doit être le moteur du ministère pastoral, parce que l'ancien ne peut remplir légitimement son rôle que s'il s'abaisse lui-même pour attirer l'attention sur le Seigneur. Et en disant cela, encore une fois, en tant que pasteur ancien, je tremble et je ne peux que compter sur la grâce de Dieu pour m'aider à accomplir cette tâche malgré mes insuffisances évidentes. Pierre a consacré une large part de ce texte aux anciens, et c'est pour ça que j'ai consacré une large part de ce message à cette question. Mais il se tourne ensuite vers toute l'Église, et c'est ce que je vous propose d'examiner maintenant, nettement plus brièvement. Deuxième point, donc, l'humilité, moteur de la vie d'Église. Nous avons vu que les anciens des 4 premiers versets ne sont pas exclusivement des aînés en âge. Et parallèlement, il me semble que l'exhortation faite aux jeunes gens à être soumis aux anciens, verset 5, ne concerne pas uniquement les jeunes, mais tous ceux qui font partie de la communauté qui a reconnu un ministère d'anciens. Je ne reviens pas longuement sur le mot « soumission » tellement impopulaire dans notre culture, mais qui dans la Bible correspond simplement, il me semble, à la reconnaissance d'une autorité légitime, tout simplement. Être soumis aux anciens, c'est tout simplement respecter le ministère des anciens, respecter qu'on leur a confié une responsabilité particulière et accepter avec sagesse et discernement, bien sûr, que c'est à eux que la conduite de l'Église a été confiée. Et ce sera d'autant plus facile à faire si les anciens exercent leur ministère avec humilité et douceur, en ramenant le troupeau vers Christ plutôt qu'en imposant leur personne. Respecter les anciens, ce n'est pas seulement, il me semble, respecter leur rôle, c'est aussi les encourager, c'est aussi prier pour eux, pour leur famille également. Il ne s'agit ni de leur accorder une déférence excessive, bien sûr, ni de les utiliser comme défouloir pour tout ce qui peut paraître frustrant dans l'Église. Avant de critiquer un ancien, et là je m'adresse aux autres anciens également, demandons-nous si nous prions pour lui et si nous cherchons à l'encourager dans son ministère. Posons-nous cette question. Après cette exhortation au respect du ministère des anciens, Pierre s'adresse à tous, y compris les anciens. Il leur dit « Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Si l'humilité doit être le moteur du ministère d'anciens, elle doit être bien évidemment le moteur du ministère de toute l'Église. Et si nous ne savons pas par où commencer pour être humble, que pour certains d'entre nous c'est peut-être très difficile, eh bien commençons par prier. Demandons à Dieu de nous aider à nous préoccuper d'abord des intérêts du Seigneur et de ceux des autres avant les nôtres. Demandons à Dieu de nous aider à faire la promotion de Jésus, faire la pub de Jésus dans notre vie et pas notre propre promotion. Laissons le Saint-Esprit faire le ménage dans nos cœurs. Sachons regarder les choses en face également lorsqu'il nous montre que nous avons tort, que nous devons changer d'attitude. En cherchant l'humilité dans notre vie d'Église, l'idée bien sûr n'est pas de pratiquer une fausse modestie pénible ou une sorte d'autoflagellation hypocrite. Il ne s'agit pas de s'abaisser pour que les autres puissent s'élever. Non, il s'agit de s'abaisser ensemble pour prendre la juste mesure de la grandeur du Seigneur. Verset 6, « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. » Si un jeune enfant veut être placé en hauteur, il vaut mieux qu'il demande à son père de le porter plutôt que de se mettre sur la pointe des pieds. Il sera beaucoup plus haut placé. Dieu résiste aux orgueilleux parce que les orgueilleux lui résistent, mais il accorde sa grâce aux humbles, à ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien sans lui. Et cette humilité est la source même de la confiance du croyant. C'est mon troisième et dernier point. L'humilité, moteur de la confiance du croyant. En lisant la fin du texte, les versets 6 et 7 en français, on peut avoir l'impression que ces deux versets n'ont pas vraiment de rapport l'un avec l'autre. D'abord verset 6, Pierre nous demande de nous abaisser pour nous laisser élever par Dieu, très bien. Verset 7, il nous invite à nous décharger sur lui de toutes nos inquiétudes. Et souvent on lit ces deux versets très séparément. Pourtant dans le texte original, il s'agit d'une seule et même phrase avec un participe, autrement dit, une traduction littérale donne ceci, « Abaissez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu, en jetant vers lui toute votre anxiété, car il prend soin de lui, de vous. » Pierre fait donc le lien entre s'abaisser sous la main puissante de Dieu et le fait de se décharger sur lui, littéralement de jeter sur lui nos soucis. Si nous cherchons à vivre dans l'humilité, c'est pour laisser Dieu intervenir dans nos vies. Tant que nous n'avons pas confié notre vie à Jésus-Christ, ou que dans telle ou telle situation, nous faisons comme si nous ne lui avions pas confié, eh bien, nous devrons porter nos propres inquiétudes. Mais lorsque nous aurons reconnu en Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui est le propriétaire de notre vie, lorsque nous aurons reconnu sa totale souveraineté sur notre vie, nous pourrons alors nous décharger de ce qui nous soucie sur lui. L'humilité, c'est aussi renoncer à la fierté subtile par laquelle nous pensons que nous pouvons résoudre tous nos problèmes et que nous pouvons maintenir toutes choses sous notre contrôle. C'est cette fierté insidieuse qui fait très souvent que nous nous inquiétons. La vérité est que nous ne pouvons pas contrôler toutes choses. Ça pourrait être un constat décourageant, et ça l'est pour beaucoup de gens, mais pour le chrétien, au contraire, ce constat doit nous conduire non pas au désespoir, mais au contraire à la foi. L'humilité, c'est aussi reconnaître que Dieu est souverain et que nous ne le sommes pas. Et ça va complètement à contre-courant de notre civilisation, qui nous dit au contraire que nous devons avoir le contrôle sur toute chose, et que c'est obscur, humiliant, peut-être même dégradant de s'en remettre à un Dieu. Ce serait peut-être vrai si Dieu était une force impersonnelle. Mais parce qu'il est notre Créateur qui nous aime, qui détient les clés de notre vie entière, le fait de s'en remettre à lui, ce n'est pas un déni de la vie, mais au contraire, c'est la découverte d'une vie comblée. Il y en a peut-être, et sans doute ce matin, qui sont chargés d'inquiétude. Peut-être, et ça nous arrive à tous, si ce n'est pas ce matin, ça sera un autre moment, peut-être devons-nous nous demander avant toute autre chose si nous ne sommes pas coupables d'une certaine fierté subtile, de présomption, que nous essayons de contrôler les événements, et que c'est de là que vient cette inquiétude. En reconnaissant que Dieu est Dieu, nous pouvons nous libérer des inquiétudes qui nous accablent. Je ne dis pas cela bien sûr par facilité, comme une formule magique. Au quotidien, reconnaissons qu'il est difficile de s'en remettre à Dieu. Mais si l'inquiétude nous guette, ou pire, si elle nous mine et nous accable, au lieu de nous enfermer dedans en pensant que nous pourrons la résoudre nous-mêmes, méditons cette image forte que Pierre nous livre. Il nous invite à jeter nos inquiétudes vers un Créateur qui ne sera, lui, jamais accablé par elles. Il peut gérer sans aucun problème toutes nos inquiétudes. Et il en détient déjà la solution. Donc Pierre nous invite à un triple appel à l'humilité, nous lance plutôt un triple appel à l'humilité, qui parcourt toute la communauté des croyants, depuis les responsables jusqu'à l'ensemble des membres dans leur vie commune et dans leur vie personnelle. Soyons cette Église qui, à l'invitation du Seigneur, invitation qui nous a adressée par l'intermédiaire de son apôtre Pierre, cette Église qui se décharge de ses fardeaux sur son Seigneur et Sauveur. Amen.